Je suis Jamisha Millard et ceci est une tranche d'actualité. Aujourd'hui, je discute avec Marie-Pierre Daigle, une candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa. Marie-Pierre est la chercheuse principale pour une étude sur le dévoilement de l'orientation sexuelle aux parents chez les femmes.
Mon nom est Marie-Pierre Daigle et je suis candidate au doctorat en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa.
Est-ce que vous pouvez juste me parler un peu plus de comment ça a commencé avec l'étude, comme pourquoi vous avez décidé de faire?
Oui, absolument. Donc, comme vous savez, mon étude porte sur le coming out aux parents chez les femmes qui aiment les femmes. Et j'ai décidé d'étudier ce phénomène-là parce que le coming out est quand même toujours un événement qui peut être assez marquant chez les personnes LGBTQ. Et même si on a vu qu'on a quand même évolué quand même beaucoup dans la façon dont on perçoit l'homosexualité ou la bisexualité, il y a toujours quand même beaucoup de stigmatisation sociale. Et le coming out aux parents peut être quand même très difficile pour certaines personnes, bien qu'on voit de plus en plus des personnes qui ont des expériences positives tout de même. Et donc, pour ma part, si je retourne un petit peu en arrière pour donner un petit peu de contexte à ma recherche, moi, je suis en psychologie clinique, donc j'étais intéressée à vraiment ancrer ma thèse dans le contexte historique de la façon dont on percevait l'homosexualité dans le champ de la psychologie, disons, dans ce dernier siècle-ci. Parce que c'est important de voir comment, justement, la psychologie a contribué à la stigmatisation des personnes LGBTQ. Donc, j'ancre ma recherche à partir des années 50 avec la stigmatisation de l'Association américaine de psychologie via, finalement, la Bible des troubles psychologiques, qui est le DSM, ou le Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, où à partir des années 50, l'homosexualité est vue comme une pathologie. Donc, je vois un peu au fil du temps comment ça a changé. Jusque dans les années 70, on a retiré l'homosexualité comme diagnostic, mais où on a quand même gardé des diagnostics qui avaient attrait à l'homosexualité jusqu'en 1987. Donc, j'ancre déjà ma recherche en regardant, si on voyait l'homosexualité comme une pathologie à ce moment-là, comment est-ce qu'on percevait quelqu'un qui faisait ou qui dévoilait son orientation sexuelle publiquement ou à ses proches ou quoi que ce soit? Donc, puis je trouvais ça intéressant parce que finalement, on voit vraiment une grosse différence entre quand c'était un diagnostic et tout de suite quand ça ne l'était plus. Donc, quand on voyait l'homosexualité comme une pathologie, mais que c'était inscrit par écrit dans le DSM. Donc, les psychologues ou les psychiatres aussi, parce que le DSM vient de la psychiatrie, on voyait le dévoilement de l'orientation sexuelle un peu sur un continuum de pathologie. Donc, si la personne qui faisait son coming out était à l'aise avec son orientation sexuelle, alors on voyait cette personne-là comme davantage, comme si son trouble psychologique, finalement, était pire que les personnes qui se sentaient mal à l'aise, coupables d'avoir des attirances envers les personnes de même sexe. Et donc, la personne qui se cachait était vue comme moins, disons, que sa pathologie était moins pire que quelqu'un qui s'ouvrait à propos de son attirance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand ça a été retiré du DSM, il y a eu beaucoup de militants aussi LGBTQ qui ont été impliqués, évidemment, dans le retrait de l'homosexualité du DSM. Donc, les psychiatres, les psychologues ont commencé à voir, OK, mais c'est peut-être pas autant l'individu qui n'est pas bien, mais c'est la société dans laquelle on vit qui est homophobe. Donc, le discours a commencé à changer et éventuellement, on a remarqué aussi que la perception de c'est quoi le coming out a aussi commencé à changer. Donc, à partir de ce moment-là, quand l'homosexualité n'était plus vue comme pathologique ou tranquillement, c'est sûr que ça a pris plusieurs décennies avant que ça soit beaucoup changé. Il a fallu changer les mentalités. C'est là où les psychologues ont plutôt commencé à dire, et les chercheurs également, bon, une personne homosexuelle ou une personne gay, lesbienne, bisexuelle va passer à travers différentes étapes pour accepter son orientation sexuelle. Et une de ces étapes-là, qui est très importante, est le coming out. Donc, maintenant, on voyait le coming out comme quelque chose de nécessaire au bien-être de l'individu LGBTQ. Alors qu'avant, on le voyait très négativement, de façon très pathologique. Donc la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est que je m'intéresse au discours dominant dans la littérature scientifique qui, donc, pour comparer un peu, bon, à l'époque, dans les années 50 jusque dans les années 90, voici comment la littérature scientifique a changé. Et là, je m'intéresse au discours dominant dans la littérature scientifique à partir du moment où on a légalisé le mariage gay en Amérique du Nord. Donc, 2004, c'était le premier cas aux États-Unis. 2005, c'était la légalisation au Canada. Et donc, je vais recenser la littérature pour voir quels ont été les discours dominants depuis jusqu'à aujourd'hui. Et je vais utiliser ça pour comparer les récits de mes participants pour ma première étude.
Selon vos connaissances, diriez-vous que c'est primordial pour les jeunes de faire le dévoilement aux parents?
C'est une excellente question. Déjà, d'emblée, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais qu'on ne m'aide pas à le faire. Le fait qu'on doive le faire, déjà la fonction du coming out dans les années 70, c'était on fait le coming out pour devenir visible en tant que communauté. Et c'était vraiment un outil politique pour dire, vous voyez, on existe, on est vos frères, vos sœurs, vos collègues, et on est comme vous. Donc, un peu surprise, on est là, mais vous ne le saviez pas. Et donc, mais est-ce que c'est important de le faire? Je veux dire, c'est certain qu'il y a beaucoup d'avantages et les personnes que j'interviewe et la littérature aussi montrent comment ça peut vraiment enlever un poids des épaules, comment se cacher justement, vivre un peu de vie ou cacher un aspect de soi qui est quand même très, très important, surtout si on est en relation et qu'on doit cacher un peu le fait qu'on est en relation avec quelqu'un. Ça peut être très difficile. Donc, c'est ça qui est quand même... il peut y avoir une très grande anxiété du fait de cacher cette partie-là. Mais est-ce que je dirais à quelqu'un « Tu dois faire ton coming out? » Non, je ne dirais pas ça. Parce que chaque personne a un contexte différent. Et la première chose que je dirais à quelqu'un et qui a été répétée beaucoup par mes participantes jusqu'à maintenant, j'ai fait 7 entrevues dans les 2 dernières semaines, c'est « Assure-toi que tu es en sécurité. » Et surtout chez les jeunes qui vivent encore chez leurs parents, de s'assurer que si c'est vraiment important pour eux de faire leur coming out, de s'assurer qu'ils ont un plan de secours si jamais ça se passe pas bien. Ça pourrait très bien se passer aussi, mais aussi d'avoir cette option-là et de vraiment être prêt et comprendre pourquoi on veut faire notre coming out et pourquoi c'est important pour nous à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des expériences positives, il y a beaucoup de monde qui a des expériences neutres, il y en a qui ont des expériences très négatives et traumatiques. Donc, il faut un peu voir, selon notre contexte familial, bon, qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer, puis voir si ça vaut la peine à ce moment-là de le faire.
Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face pendant la réalisation de votre étude?
Oui, absolument. Bon, moi, je suis en quatrième année de mon doctorat. C'est sûr qu'il y a eu des défis aussi. Bon, du fait qu'on est dans la COVID en ce moment, c'est vraiment pas évident de développer un projet de thèse de la maison dans le même espace où on est à tous les jours. Pour moi, le plus grand défi jusqu'à maintenant, ça a été vraiment... Dans la recherche, on est poussé à faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, on doit proposer quelque chose de nouveau. Et le coming out a quand même été beaucoup étudié depuis les années 80. Et donc, il faut trouver un nouvel angle et Puis il faut être aussi assez confiant que... Il y a comme toujours une remise en question, en fait, de est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez nouveau? Est-ce que ça va avoir un assez grand impact aussi? Parce que moi, j'ai un côté très militant. Je suis beaucoup dans la recherche plutôt action, où je veux que ma recherche ait un impact positif sur la communauté que j'étudie, finalement. Puis je veux que ça crée des opportunités pour cette communauté-là. C'est sûr que pour moi, ça a été la phase la plus difficile, mais je suis très chanceuse d'avoir une superviseure qui est très présente, qui a été un peu, si vous voulez, mon sounding board à travers tout mon processus, qui a été un pilier quand même très solide pour m'aider à développer, à mettre sur papier ma recherche, parce qu'on a aussi tendance, quand on est très curieux, de vouloir tout lire et de tout comprendre. Et à un moment donné, il faut s'asseoir puis écrire. Des fois, on peut aussi avoir des défis avec le recrutement. Dans mon cas, ça n'a pas été un défi. Au contraire, je trouve que ça va très bien. Mais c'est aussi très important pour moi que qu'une plus grande diversité de voix possible soit inclue dans ma recherche. Parce qu'on voit que la recherche en psychologie est très, on utilise le terme eurocentrique, mais très blanc, très 18-25 ans. Donc, beaucoup d'échantillons d'étudiants universitaires. Et pour moi, c'était très important de rejoindre la communauté. Donc, les personnes noires, autochtones, de couleur. Depuis le début de ma thèse, ça a toujours été très important parce que aussi leur expérience de coming out est très, bon, intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il y a le racisme aussi qui peut rentrer en jeu. Il y a donc différents points de vue culturel à tenir en compte, mais aussi j'aimerais recruter des personnes qui sont plus âgées parce que ces personnes-là ont pu avoir vécu dans une époque où l'homosexualité était soit criminalisée ou perçue comme nommée de pathologique. Donc j'aimerais ça pouvoir prendre compte du point de vue de ces personnes-là et de comment soit elles ont vécu leur dévoilement à ce moment-là ou le vivent aujourd'hui. En tenant compte que ces structures oppressives ont été présentes dans leur vie beaucoup plus que les générations actuelles. J'ai mis mon recrutement sur pause en ce moment pour vraiment essayer de vraiment cibler donc ces populations-là qui sont très importantes pour moi, pour vraiment avoir justement cette diversité de points de vue-là qui sont très, très riches en recherche et qui sont souvent mis de côté.
Donc, si un ou une jeune envisage de faire son coming out à ses proches, mais n'est pas trop sûr, comment peut-il se préparer?
Comme je disais tantôt, un peu avoir un plan, un plan B, là, où est-ce que je peux être en sécurité si jamais ça va mal. Aussi, juste bien s'entourer aussi, parce qu'on dit qu'une des choses les plus importantes avec l'expérience ou de coming out, finalement, c'est de s'assurer d'avoir un super bon soutien social pour rebondir, pour se tourner vers les autres si jamais on a besoin d'intégrer un peu ce qui s'est passé. Donc déjà, de se préparer à se dire « Ok, mon parent peut avoir une réaction super négative, me juger, ne pas me comprendre, me questionner. » Puis aussi rien dire du tout et ne jamais vouloir en reparler quand vraiment ce qu'on veut, c'est être rassuré, se faire dire qu'on s'aime, puis se faire dire qu'on va être correct, puis que la relation avec notre parent va bien aller. Mais il peut y avoir beaucoup de changements dans cette relation-là par la suite. Donc, c'est juste s'attendre à ce que ça soit une transition, s'attendre à ce que nos parents aient peut-être besoin d'un peu de temps aussi, et qui ne vont pas nécessairement vouloir en parler. Tandis que nous, peut-être que ce serait important pour essayer de justement d'avoir cette rassurance-là. Puis aussi, il y a plusieurs organismes. On a le Kind Space, par exemple. Donc aussi, non seulement entrer en contact avec nos amis, nos proches pour nous soutenir, mais aussi entrer en contact avec la communauté LGBTQ est aussi un aspect qui peut vraiment venir soutenir la personne qui fait son coming out, parce que ça valide qui elle est, ça valide qu'il y a d'autres personnes comme elle qui sont des modèles finalement dans la communauté ou peu importe. Et ça, ça vient vraiment aussi aider quand on peut avoir un coming out.
Avez-vous déjà travaillé sur d'autres études auparavant ou avez-vous d'autres de planifier pour le futur?
J'ai travaillé sur d'autres études. C'est sûr que bon, là, je suis dans le laboratoire de recherche sur le couple, donc j'avais travaillé sur des études qui étaient plus qui n'avaient pas nécessairement rapport avec la diversité sexuelle de genre, mais plus sur la douleur chronique chez les couples, la gestion de la douleur chronique. Mais j'ai aussi fait, je viens de publier au mois de janvier un article qui était dans les rouages un petit peu longtemps, mais qui a finalement été publié, où j'ai interviewé un psychologue, le docteur Pierre Ritchie, qui était professeur à l'Université d'Ottawa. Il vient de prendre sa retraite, mais il était aussi directeur exécutif de l'Association canadienne de psychologie pendant plusieurs années. Et il a été le seul représentant canadien au débat ou aux discussions de l'Association américaine de psychologie, alors qu'on tentait de retirer complètement toute allusion à l'homosexualité du DSM. Donc, on parle des années 80. Et donc, je l'ai interviewé à ce sujet-là. J'ai fait un contexte historique aussi. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi un point de vue canadien, parce que c'est très rare, en fait. Tout se passe aux États-Unis, avec l'Association américaine de psychiatrie, l'Association américaine de psychologie. Et nous, souvent, on va envoyer des représentants. Puis après, ben, selon ce qui se passe là-bas, on va souvent mettre en œuvre certaines choses au Canada. Et aussi, vu que la Bible, si vous voulez, des troubles psychologiques, sa maison est aux États-Unis, ben, c'est un peu comme ça, un peu la raison pour laquelle ça fonctionne de cette façon. Pas pour dire qu'on fait absolument rien de nouveau au Canada, ça serait aussi vraiment pas juste pour moi de dire ça. Mais c'est vrai que les deux pays travaillent quand même ensemble. En termes de recherche future, ma thèse va être publiée par article. Donc, je compte publier 3 articles. Le premier, qui va être une revue de la portée ou qui va recenser les écrits de la littérature scientifique de 2004 à aujourd'hui sur le coming out aux parents chez les femmes. Et après, je vais comparer ça donc à ma première étude où je vais interviewer un minimum de 18 femmes sur leur expérience de coming out à leurs parents. Et je vais prendre leur récit et je vais les comparer au discours dominant dans la littérature scientifique et voir, bon, est-ce que leur expérience personnelle est reflétée dans ces discours-là? Et est-ce qu'elles puisent de ces discours-là pour faire sens de leur expérience? Donc, ça me permet finalement de voir comment est-ce que la littérature scientifique peut avoir un impact sur les femmes? Donc, comment est-ce que la recherche peut avoir un impact sur la communauté LGBTQ et comment on parle de notre expérience ou quelles attentes on crée aussi par rapport au coming out? Et de l'autre côté, quelles sont les opportunités pour la littérature scientifique de voir quels sont les fossés, en fait, qui existent par rapport au coming out chez les femmes dans la littérature? Et dans un deuxième temps, je vais mener 2 groupes de discussion sur leur expérience de croissance ou de ce qu'on appelle, je vais vous donner un terme, dépréciation après leur coming out. Donc, comment est-ce qu'elles ont grandi de l'expérience, s'il y a lieu? Et sinon, qu'est-ce qu'elles ont perdu aussi suite à cette expérience-là? Et je vais aussi recueillir des expériences de soutien qu'elles auraient pu avoir de la part de leurs parents et des expériences de discrimination, notamment des microagressions. Et dans ces études-là aussi, j'utilise une lunette féministe. Et donc, je vais essayer de voir aussi comment le sexisme pourrait jouer un rôle dans comment la femme spécifiquement vit son coming out à ses parents. Et c'est pour ça que je mettais vraiment une lunette sur la femme dans ce cas-ci. Et déjà dans mes entrevues, là, j'ai remarqué que le sexisme pouvait faire partie de l'expérience. Encore une fois, juste un appel à l'action pour inviter les gens à participer, de ne pas hésiter à me contacter si jamais il y a des questions. Puis que, ouais, c'est fait dans le plus grand respect aussi, ces entrevues-là.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Marie-Pierre Daigle, une candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa et la chercheuse principale pour l'étude sur le dévoilement de l'orientation sexuelle aux parents chez les femmes. Le laboratoire de recherche sur le couple à l'Université d'Ottawa recrute activement des femmes qui aiment les femmes, de 18 ans et plus, et de minorités visibles, pour que la recherche soit équitable. Si vous correspondez à ces critères, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci d'être resté à l'écoute. Je suis Jamisha Millard. Ce reportage a été créé grâce au soutien généreux des fonds de la radio communautaire au Canada.